Bonjour, ici Marc Levasseur. Je vous souhaite la bienvenue à Django et compagnie, l'émission consacrée au jazz manouche et aux musiques apparentées. Jazz, musette, musique des Balkans, tzigane évidemment, flamenco, musique klezmer, musique du Moyen-Orient et musique du monde. Des variations musicales teintées d'influences locales, évidemment, on a des intonations locales parce que dépendant où on a appris la musique, dans quel contexte culturel, évidemment, on n'aura pas la même intonation si on l'a appris ailleurs sur la planète, dans une autre culture. On peut les entendre telles qu'on peut entendre, d'ailleurs, c'est les intonations ici à Montréal, au Québec, puis bien évidemment ailleurs dans le monde. Je vous rappelle que nous sommes diffusés deux fois la semaine, les mercredis et les vendredis en soirée, sur les ondes de CIBL 101,5. Vous pouvez également nous suivre sur une page Facebook et Instagram nommée Montréal est Jazz Manouche. Donc, Montréal est EST Jazz Manouche. Cette semaine, on poursuit l'intéressant, le fameux entretien avec l'excellent clarinettiste Yvan Bello, qui vient nous présenter son dernier opus, un album concept qui s'appelle Quintissime, et il est accompagné du non moins excellent Alain Juteau. Alors, on va parler avec ces messieurs tout de suite après la pièce qui suit, qui s'appelle Transformation, qui est tirée de leur dernier album, qui est disponible d'ailleurs en ce moment même. Thank you. Transformé au retour de cette pièce qui s'appelle Transformation. Donc, du dernier opus d'Yvan Bello qui se nomme Quintissime et qu'on peut retrouver où, Yvan? On peut l'acheter
sur,
partout.
Sur ben, Spotify, évidemment, puis j'ai un Bandcamp aussi.
Bon, quatrième opus, mais Yvan, il ne fait pas juste ça. Il a fait aussi, il a participé à un album qui va sortir bientôt avec Jeff Mosley et les Django Messengers. Bonjour Jeff Mosley et les Django Messengers. Yvan, tenez absolument à ce qu'on parle de vous. Alors, c'est fait. Voilà, mission accomplie.
Oui, oui, mais pour être bien franc, je m'en vais faire quelques retouches dans deux semaines.
Bon, donc l'album, il sort en mars,
c'est ça? Il
n'est
pas sorti encore. Ouais, plutôt en mars, oui.
Bon, mais c'est vraiment, on les a vus en spectacle là, l'année passée, notamment au Festival Django de Montréal. C'était excellent. Mais là, on va revenir à votre collègue ici, parce que Yvan n'est pas venu seul. Il est venu avec Alain. Juteau. Et puis Alain, lui, on aime, parce que ces deux gars-là, ils font de la musique ensemble depuis 50 ans ou quoi, quelque chose?
Oui, si on fait le calcul, oui, c'est ça.
Ça a commencé comment, Alain?
Bon, en somme, nous, on est deux gars de Hansik. On est de Montréal et tout. Puis le tout début de ça, dans le fond, on s'est rencontrés dans un premier band avec qui jouait qui s'appelait Vers l'envers.
Vers l'envers.
Eh oui, un jeu de mots comme ça, vers l'envers. Et puis, à ce moment-là, quoi, j'ai 15-16 ans. Là.
C'est l'époque, on est les années 70, là?
Absolument, puis on fait du rock, puis des succès québécois aussi, Pagliaro, Valiquette, puis tout ça.
Ah oui, oui c'est l'époque, c'est l'époque.
C'est quoi, ça fait, à ce moment-là, ça doit faire, je commence, ça fait 2-3 ans que je joue. Puis, on avait entendu parler d'Yvan qui jouait de la clarinette, évidemment, dans le coin, puis du saxophone. Il venait de s'acheter un sax, il n'y avait pas si longtemps, après avoir fait étudier la clarinette, il s'est enligné sur le saxophone. On l'invite à une pratique, puis c'est de là que c'est parti, notre amitié. On a joué avec le groupe Vers l'envers, puis après ça, on a commencé, disons, à cheminer un peu plus vers le jazz, et puis Puis je dois dire que M. Bello, le père à Yvan, c'est lui, ensemble, qui nous a initiés au jazz, parce que j'allais chez Yvan, puis dans le sol...
Il mettait des disques de jazz.
Oui, il faisait écouter des disques, puis donc, je me souviens de Herb Ellis, qu'on aimait beaucoup, puis il nous a... Tu sais, puis dans le temps, on écoutait aussi Dave Brubeck, le fameux Take Five, puis les premiers pas. C'est comme ça que ça a commencé, dans le fond, puis on s'est mis à pratiquer avec, comme je disais, un gros fake book avec des tunes de jazz, puis bon, la lecture, Yvan avait une très bonne lecture, puis moi, je me débrouillais avec les accords, tant bien que mal. Puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à monter notre répertoire qu'on appelle early jazz. Moi, j'appelle ça du minouche.
Oui, oui, oui.
Plutôt que du manouche.
Oui, parce qu'on commence, on tâtonne beaucoup.
Tu comprends? Il y a une grosse nuance, parce que on flirte avec le manouche un peu, avec les tunes de Django Reinhardt, mais c'est pas, ça n'a jamais été un duo, un trio vraiment manouche. T'sais.
Non, mais on est vraiment dans les années 70 au Québec. On parlait de Peggy Arrow. J'entends frapper, je pense qu'il y a trois accords là-dedans, des accords de cow-boy que les gens, les gens de jazz vont appeler des accords de cow-boy. Le jazz est une musique, qu'il soit manouche ou traditionnel, est une musique beaucoup plus complexe. Est-ce que la courbe d'apprentissage est beaucoup plus élevée, là?
Oui, bien, ça prend des notions un peu. Évidemment, j'étudiais le jazz à ce moment-là avec Sam Balderman, qui était le professeur du Cégep Saint-Laurent, mais je prenais mes cours, moi, en privé chez lui. Parce que j'ai pas réussi à rentrer au cégep, on voulait pas de moi.
OK.
Les notes académiques étaient pas au rendez-vous.
Ça fait que j'ai mais les notes normales, ouais, ça marchait?
Ben c'est ça. Ça fait que j'ai étudié le jazz à ma façon. Puis c'est en jouant comme ça avec Yvan, puis on a pris pas mal d'expérience. Puis ça a duré un bon bout de temps. On s'est perdu de vue, évidemment, le temps. Moi, je suis parti pour Mont-Tremblant à l'âge de 20 ans. Puis, on s'est retrouvés plus tard dans le temps, là, une fois que les familles, on a eu nos familles entre-temps et tout. Ça fait qu'aujourd'hui, on est vraiment content de renouer à l'occasion. On ne joue pas régulièrement, mais quand on a l'occasion, on trempe là-dedans, puis j'adore ça.
Puis, vous avez tout un bagage, là. Yvan, lui, il a même poursuivi. Il nous arrive avec des mots qu'on ne connaît pas, des trucs émioles, là, des triades émioles.
Oui, oui.
Hein, Yvan, il a poursuivi, lui, il a poursuivi la connaissance, le jeu, mais aussi l'apprentissage théorique.
En plus de ça, ça fait 8 ans que j'enseigne au Cégep Saint-Laurent, donc c'est certain que quand tu arrives pour montrer des choses à quelqu'un, tu as intérêt
t'es
à savoir
nommer,
de quoi
t'es...
tu parles. Mais ça m'a beaucoup aidé d'enseigner justement, parce qu'il a fallu que je me mette le nez encore plus dans les livres pour avoir les bons termes, puis développer le sens analytique, parce que l'aide de la gare, c'est d'être capable d'analyser. Quand tu écoutes un solo, savoir qu'est-ce que l'improvisateur est après faire. Donc,
ouais.
On t'analyse des trucs, donc ça prend des étiquettes d'analyse pour pouvoir analyser
pour
ça.
Pouvoir mettre un nom sur le concept.
Exactement, exact.
Mais vous, Yvan, avec tout ce bagage, est-ce que vous jouez plus instinctivement ou est-ce que c'est le côté rationnel de votre cerveau qui avec toute cette théorie, dit « OK, on est dans tel temps, on s'en va à telle place, machin? »
Je vais citer le grand joueur Charlie Parker qui disait « Apprenez les grilles et oubliez-les. »
Voilà.
C'est que c'est un moment où tu développes des trucs, mais faut que quand tu improvises, il faut que tu laisses aller tout ça complètement et tu te laisses aller dans la musique.
On n'oubliera pas, par exemple, de jouer une pièce que vous allez nous jouer maintenant.
Oui, bien sûr.
Ça, on va s'en rappeler. Ça va s'appeler comment, d'ailleurs?
Ça va s'appeler Coquette, un autre petit...
C'est pas une tune de Django, mais...
Mais elle a été reprise par Django.
Elle
a été jouée par Django.
Thank you.
l'avez brassée un petit peu coquette quand même. Hein? Vous l'avez, sans la bousculer, vous l'avez quand même poussée un petit peu dans ses retranchements.
Ben, c'est drôle parce que ça m'amène à te parler de quelque chose qui va peut-être t'intéresser. C'est que j'ai été à Samoro l'été passé. C'est un endroit qui est à côté, un terrain de camping qui est à côté du festival de jazz Django Reinhardt qui est situé à Fontainebleau. Et là, j'ai été campé là avec ma tante à deux places. Je suis passé une semaine là-bas et on se couchait à peu près à 7-8 heures le matin. Puis on se relevait à 10 heures parce qu'il faisait à peu près 40 heures. Fait qu'on se faisait réveiller par le soleil. Puis là, on commençait à jammer à midi, une heure après un café puis une coupe de croissant pendant une semaine. Et là, ceux qui jouent dans le festival Django Reinhardt, ils vont jouer dans ce camping-là.
Oui, la nuit, oui.
La nuit. Et ça dure jusqu'aux petites heures du matin. Et là, j'ai rencontré Biraly Lagrand, que okay. j'ai joué avec lui.
Vous avez joué avec Biraly.
J'ai joué avec Biraly, j'ai joué avec Giacomo Smith. J'ai joué avec Costel, qui est un violoniste extraordinaire de Manouche. Lacatoche était là. Je n'ai pas joué avec Lacatoche, mais il était là. Mais ART, qui habitait à Montréal pendant un bout de temps, qui est retourné d'ailleurs en France, il a fait un battle, si tu veux, avec Lacatoche. C'était quelque chose à voir. Donc, je suis sorti de là vraiment complètement subjugué. J'ai pas encore tout absorbé ce que j'ai vécu là-bas.
J'imagine. Un battle, pareil, c'est un échange de...
Oui, exact. Mais moi, en tout cas...
Non, il faut expliquer pour le téléspectateur.
Oui, absolument. Non, c'était vraiment une expérience extraordinaire. J'encourage n'importe quel musicien.
Bon, bien là, moi, évidemment, étant guitariste amateur, quand vous me dites que vous avez joué avec Biraly Lagrange, je fais « Ah oui ».
Ah oui.
Oui.
Et comment c'est jouer avec Biraly?
Écoutez, c'était extraordinaire. Je veux dire que quand ce gars-là rentre dans le camping puis s'assoit la chaise à côté de toi, c'est quelque chose. Je vais vous conter une petite anecdote. C'est qu'il y avait une piscine dans notre camping, une piscine. C'est une petite piscine d'enfant. C'était comme l'étiquette de notre tunnel, ce qui était notre terrain de camping. Puis quand Biraly s'est levé, il a mis le pied dans la piscine. Fait qu'il s'est mouillé le pied. Mais là, on s'est dit, avoue-tu, il marche pas sur l'eau.
Ah, c'est pas bête, ça. Mais quand il a pris la guitare, est-ce qu'il marchait sur l'eau ou est-ce qu'il flottait?
Oui, il marchait pas mal sur l'eau.
Non, mais comment c'est jammer avec
Bien, là, il arrive, il dit, OK, on va jouer Them Their Eyes. Là, il arrive, il commence, check, pas trop vite. Là, il dit, oh, il arrête tout. Il dit, non, check. Il joue ça dans le plancher. Fait que là, j'avais pas le choix, mais il fallait que j'improvise dans Them Their Eyes.
Mais ceux qui connaissent pas Biraly Lagrange, là, il joue vite. Il joue très rapide.
Il joue très vite. Puis pourquoi je te parle de ça? Parce que justement, dans le solo que je viens de faire, je me permets de jouer quelques notes. Je vais te dire, j'avais pratiqué une passe avant de partir en mi majeur. Parce que la pièce est en mi majeur, ce qui est très difficile. Fait que j'avais pratiqué cette passe-là. Heureusement, parce que ça m'a sauvé la vie.
Oui, c'est un passe-partout. Tu peux le mettre n'importe où, puis ça marche tout le temps.
Puis dans la vidéo, d'ailleurs, je l'ai sur YouTube, la chose, on voit cette passe-là avec moi et Biraly, évidemment, qui joue. Mais écoute, c'était une musique extraordinaire, on s'entend. Il y en avait bien d'autres. Il y avait Benji, il y avait... Moignard était là, Angelo Debar. Écoute, il y avait du musicien là. C'est le fun de voir ce niveau-là, parce que c'est un niveau, on parle de niveau international ici. Donc, vois l'aplomb des gars, comment il y a un aplomb.
Et moi, je peux témoigner, parce que l'an dernier, on a eu Stéphane Rembel qui est venu ici, qui est quand même un musicien.
Avec lui quand
voilà, c'est là que je voulais en venir. Oui. C'est qu'on avait Rembel, il y avait l'arrière-petit-fils de Django, Simba, qui était là. Il y avait Jeff Mosley. Et là, ça jouait. Et à un moment donné, M. Bello, ici présent, il est rentré. Quand je vous dis que M. Bello, il rentre. Et c'était vraiment... Rembel s'est retourné. Mais là, on voit... Mais c'est là où on voit aussi l'expérience de jouer avec des gens comme ça. C'est sûr que ça va vite. C'est impressionnant. Mais vous l'avez tenu. On a dit, ben écoute, on a une autre étoile avec nous. On est chanceux à Montréal.
Oui, mais je vais être bien franc avec toi. La musique, c'est un work in progress. Je veux dire, tu te sens jamais satisfait. Il y a toujours des choses à apprendre. C'est infini. C'est ça qui est extraordinaire aussi, d'ailleurs. Mais c'est infini. Tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Puis souvent, on s'écoute jouer, puis on dit, j'ai fait ça. On est très critique à notre égard en général. Mais
l'apprentissage sans fin, et là, je pense qu'on va parler avec Alain un peu, on est tous d'accord, mais dire on a quand même tous un certain âge ici autour de la table, on joue de la musique parce qu'on apprend. C'est bon pour notre cerveau, c'est bon pour nos réflexes, c'est bon pour un paquet de choses.
Oui. C'est sûr qu'en rencontrant des musiciens de ce calibre-là, c'est une expérience formidable pour un musicien. Je vais donner un exemple ici. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Donato.
OK. Oui.
Spécialement au Festi-Jazz de Mont-Tremblant, où je l'ai accompagné pour une clinique qu'il faisait, ce qu'on appelle... je cherche le nom. Je l'ai accompagné, je ne le connaissais pas. Je le connaissais pour l'avoir rencontré comme ça.
Non, mais pas intimement, oui.
Bon, voilà. Je donne cet exemple-là. Ça fait que quand tu rencontres un musicien... Parce que Michel a tout
Il a un bagage.
Il a tout un bagage. C'est un musicien très talentueux, puis ça, puis respecté dans le milieu... ça m'a fait grandir comme musicien de rencontrer Michel Donato, je dois le dire. Michel et d'autres musiciens aussi que tu rencontres qui sont... définitivement, t'évolues.
Ça veut dire quoi, grandir, évoluer? Ça veut dire quoi pour vous?
Bien, si on parle de jazz, évidemment, si on parle de jazz, l'improvisation et tout ça, ça n'a pas de fin. Tu veux accéder, tu veux, même en prenant de l'âge, en prenant de l'âge, c'est ça pour moi, c'est d'arriver où tu arrives à un niveau, puis tu peux te mettre dans un état où tu vas vraiment improviser. Puis il y a des moments magiques là-dedans, puis ça n'arrive pas tout le temps, puis tu vas improviser, mais il y a un moment où tu vraiment t'improvises.
Oui. Il y a des bouts où c'est magique, puis il y a des bouts où tu as l'impression que tu tournes en rond.
Bien, c'est ça. Il faut que tu joues.
Oui.
Tu joues, mais il y a
Il n'y a pas de temps mort.
C'est ça. Mais à un moment donné, comme on dit, ça lève.
La mayonnaise prend.
Absolument. Puis c'est les moments les plus merveilleux pour un musicien. Tu rentres chez vous, tu ne marches pas, tu flottes.
Voilà.
Parce que ce moment... Ouh, l'inverse peut arriver aussi.
Oui, mais l'inverse, heureusement, tu peux recommencer le soir après. Mais quelqu'un me disait, parce que moi, j'ai commencé à improviser il y a à peu près un an, quelqu'un me dit, écoute, tu veux toujours jouer avec des gens qui sont meilleurs que toi, parce que c'est justement, c'est là où tu vas apprendre. Puis c'est vrai, c'est une communication, dans le fond.
Oui, absolument, absolument. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse, si tu permets.
Pour non, il n'y en est pas question.
Je veux quand même présenter les musiciens de l'album Quintissime.
Oui, on va revenir à ton album Quintissime. Okay. On va y revenir à la fin.
OK, parfait.
Mais quoi?
Normand Lachapelle à la basse, il y a Sylvain Provost à la guitare, Guillaume Martineau au piano, et il y a Yvon Plouffe à la batterie, et Alain Juteau qui est ici avec nous aujourd'hui, qui joue dans une pièce.
Alors ça, c'est l'album. Ça, c'est vraiment intéressant. Tiens, vu que vous avez amené le truc sur le sujet, on va en parler un petit peu avant de passer à la pièce finale, en fait. Mais un album concept, hein, est-ce que c'est plus difficile à concevoir, justement, qu'un album où on dit... Parce que vous en avez fait 4 albums, quand même.
Oui.
Bon. Est-ce que c'est plus facile quand on a un fil conducteur comme ça? Vous avez une idée de base?
C'est sûr que quand tu t'en vas dans la composition musicale, c'est plus exigeant, puis ça prend plus de temps. Mais en même temps, ça, entre guillemets, ça vaut son pesant d'or, parce que tu arrives avec quelque chose de différent. Tout artiste veut essayer de se démarquer dans son art. Donc, en composant, tu fais nécessairement quelque chose qui est plus personnel. Mais même si au niveau d'improvisation, tu peux faire des choses très personnelles dans un standard de jazz, il y en a les improvisateurs développent des styles de façon d'improviser, tu les reconnais tout de suite parce qu'ils ont développé quelque chose. Mais c'est le fun d'arriver avec de la musique originale pour vraiment aller encore plus loin dans ton apprentissage. Et ça va t'aider dans tes improvisations aussi. C'est important de le faire, la composition. Il faut composer.
Oui, oui. Qu'est-ce qu'une bonne improvisation?
Bien, c'est drôle, on a effleuré le sujet des niveaux, puis tout ça. Quand tu écoutes des joueurs, puis il n'y a pas une note à côté, tu écoutes ça de A à Z, tu écoutes un solo de George Benson, exemple, écoute, il n'y a pas de note à côté, là. Bien, les musiciens aussi que j'ai rencontrés là-bas, là, les Birelli et compagnie, je veux dire, Costel, tu écoutes le solo complet, il n'y a pas de note à côté, tout est... Eux autres, ils pourront peut-être te dire qu'ils ont patiné à tel endroit, puis tout ça, eux autres, ils le savent, mais nous autres, on ne l'entend pas, on écoute ça, puis la précision aussi... Tu sens que la précision est vraiment là. Puis quand je parle de précision, je ne parle pas nécessairement de précision au niveau vertical. Je parle de précision au niveau horizontal. C'est-à-dire que tu peux te promener avec le rythme. Hein? Tu peux jouer un peu en arrière, un peu en avant, un peu. Tu peux t'amuser dans le rythme. Coltrane faisait ça. Il jouait.
Il se promenait
autour de la pulsation.
C'est ça.
Oui, dans le fond du temps. Oui, il peut se promener dans la pulsation comme ça, il tente. Mm-hmm. Ça fait partie de l'improvisation. Ça aussi, c'est ça qui est intéressant aussi. Voir les joueurs qui flottent au-dessus de la pulsation. Reinhardt faisait ça aussi.
Oui.
C'est pas tout métronomique. Tu vas dire, il a accéléré ou quoi. Mais c'était contrôlé, par exemple.
Ouais.
Mm-hmm. C'est comme qu'on va dire quelqu'un dans le jazz en général, ce qu'on aime faire dans le jazz, c'est jouer un petit peu en arrière du tempo. T'sais? Mais il y a une différence entre ça et draguer, entre guillemets.
La ligne, elle est très fine.
C'est pas la même affaire.
Tu peux même pousser.
Puis tu peux pousser aussi. Ouais. Tu peux tout faire. Ben, faut que tu le contrôles. Mais l'improvisateur, il est chevronné, tu sens qu'il contrôle ça.
Mm-hmm.
Il ne se laisse pas aller par ses limites techniques. Ça prend une excellente technique en partant. T'sais.
Oui, mais là, on parle de technique, justement. Oui, mais là, quand on parle d'improviser, qu'est-ce qu'une bonne improvisation pour la personne qui l'écoute, qui la reçoit? C'est une communication. C'est une communication, dans le fond.
Oui, bien, fondamentalement, il faut que tu comptes une histoire.
Voilà.
Ça, c'est fondamental.
J'allais dire, pour enchaîner là-dessus, c'est que le solo, quand tu le commences, il y a une conclusion au solo. Donc, il y a
un début, un milieu.
Oui, et voilà, si tu réussis vraiment à mener ton solo, tu commences, puis ça, tu développes, et à un moment, il faut que tu ailles le déposer à la bonne place, puis que ça... Si tu conclus pas comme il faut ton solo, ça veut pas dire autant.
Ça reste comme une queue de poisson.
Oui, exactement. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à maîtriser. Plus tu joues, tu as la chance d'improviser, puis de jouer et de jouer. Tu arrives à ce niveau-là en travaillant, évidemment.
Puis en jouant avec des bons musiciens comme vous autres.
Bien, c'est sûr que hein, quand tu es bien appuyé, là...
Non, ça paraît. Hein?
Ça donne un...
Messieurs... C'était un grand plaisir de vous recevoir. On va faire une dernière pièce, mais avant, je vais faire plaisir à Yvan. Je vais rappeler où est-ce qu'on peut trouver son album.
Bien évidemment, sur Spotify, Bandcamp. Et puis, si vous allez voir sur YouTube, bien, j'ai des extraits de spectacles où je joue de la clarinette basse, un banné aussi là-dedans, puis différents trucs. Donc, on peut aller voir ça. Sorti Jazz Night a fait une belle critique, puis il y a aussi des extraits de vidéos. Mais l'album, évidemment, on peut aller sur Bandcamp, vous allez le trouver facilement. Yvan Belliot, Quintissime.
Puis, on surveille aussi, parce qu'Yvan, il va être sur l'album de Jeff Mosley et Django Messenger, qui devrait sortir quelque part au mois de mars. Alors, on va surveiller ça attentivement. On va d'ailleurs probablement en reparler ici même à cette émission. Et là, on écoute quoi pour la fin? Ben, là, vous avez gardé quoi?
Ben,
comme...
Pour changer un peu, on s'en va vers du Sandy Béchet. Ça s'appelle Petite fleur.
Ah, ben oui.
Fait que c'est une pièce que j'ai enregistrée sur mon premier album. Et petite anecdote là-dessus, je voulais pas l'enregistrer parce que c'était toutes des compositions. Ma femme m'a dit, faut que tu enregistres cette pièce-là. Je dis oui, mais... Fait que je suis arrivé au studio, je dis, écoutez les gars, ma conjointe m'a dit, enregistrez ça. Fait qu'on commence avec ça. Fait qu'on a fait un one take. Mais finalement, c'est une pièce que je jouais beaucoup à Radio-Canada et tout ça. Fait que j'étais content. Petite fleur, ma version de Petite fleur, qui débute avec une introduction un peu spéciale. Je vous mets au défi de dire c'est quoi.
Non, mais on l'écoute parce qu'il faut qu'on passe. On l'écoute. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Yvan Belliot, Alain Juteau. Yvan Belliot à la clarinette, Alain Juteau à la guitare. Nous sommes superbes de découverte. En régie, Daniel Labrosse, Maurice Bolduc. Réalisation, animation et thème d'ouverture, Marc Levasseur. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Django et compagnie. Merci. Ciao, ciao. Bye, bye.